Dr. John Oswald, Isaïe, session 27, Isa. 56 à 57. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le Dr. John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 27, Isaïe chapitre 56 et 57. Je pense que le moment est venu. Alors, commençons. J'ai entendu une merveilleuse histoire cette semaine sur moi-même. Un ancien étudiant a déclaré qu'il faisait ses valises pour déménager et qu'il avait de jeunes enfants sous ses pieds. Alors, je voulais faire quelque chose pour les occuper. Il a donc trouvé des cassettes de ses études au séminaire et un lecteur de cassettes. Alors, il en a donné un à son fils de 6 ans et a dit au bout d'un moment qu'il faisait autre chose et il a entendu cette voix plutôt familière et a regardé dehors, et voilà que son fils est monté dans les escaliers avec le lecteur de cassettes, juste ravi, ravi attention. Et il a dit que c'était moi qui enseignais un cours d'exégèse en hébreu. Et l'enfant de 6 ans a dit, « Papa, ce type est bon. » Soit l'enfant était un génie, soit il sortait de la bouche des bébés, oui. Ne pense pas que je mettrai ça sur mon CV. Prions ensemble. Merci, Père, pour cette journée. Merci pour tout ce que vous nous avez permis d'accomplir aujourd'hui. Merci pour l'énergie, la santé, la direction et la motivation. Merci d'être avec nous dans tout. Et maintenant que nous arrivons à la fin de la journée, nous vous remercions d'être avec nous maintenant. Et donc, nous prions pour que tu te manifestes à nous. Nous venons humblement à votre parole. Nous reconnaissons notre besoin de ton esprit pour nous enseigner sa vérité. Oh, nous pouvons le lire. Nous pouvons comprendre ce que signifient les mots, ces choses. Mais à la fin, Seigneur, tu dois venir nous montrer ce que cela signifie pour nous. Et nous vous remercierons au nom de Jésus, Amen. Eh bien, nous avons examiné le problème et la promesse du service dans les chapitres 1 à 5, à savoir qu'Israël est appelé à être ce vase pur et propre à travers lequel la Torah de Dieu peut être diffusée dans le monde. Et pourtant Israël est rebelle, aveugle, arrogant. La question est donc de savoir comment cet Israël va-t-il devenir cet Israël-là? Et je vous ai suggéré que la réponse est l'appel au service au chapitre 6, où Isaïe propose sa propre expérience comme modèle. Si l'homme aux lèvres impures peut avoir ses lèvres purifiées afin de pouvoir transmettre un message à la nation, alors la nation aux lèvres impures pourrait avoir ses lèvres purifiées pour transmettre un message au monde. Nous avons vu dans les chapitres 7 à 39 que la base du service est la confiance en Yahweh, par opposition à la confiance en quelqu'un. Quelqu'un pourrait-il aider à ouvrir la porte? Merci. Par opposition à la confiance dans les nations de l'humanité. Mais comme nous l'avons vu, même si vous avez appris que l'on peut faire confiance à Dieu, cela ne signifie pas nécessairement que vous le ferez tout le temps. Ainsi, nous avons vu dans les chapitres 40 à 48, la grâce, la motivation pour le service alors que les gens sont en captivité et que Dieu les invite à devenir ses serviteurs, à être sa preuve dans son procès contre les dieux. Mais la question se pose là. Comment Dieu peut-il faire cela? Et notre péché? Comment Dieu peut-il simplement déclarer que nous sommes ses serviteurs? Et nous avons vu que la réponse est aussi la grâce. Si la grâce est le motif du service, elle est aussi le moyen du service. Et nous avons vu comment, dans les chapitres 49 à 55, le serviteur est révélé qui est l'Israël idéal, qui sera pour Israël ce qu'Israël ne pourrait jamais être pour lui-même. Maintenant. On pourrait penser que le livre s'arrête là. Je veux dire, ce sont les serviteurs choisis de Dieu, rendus possibles par le sacrifice du serviteur. Et le chapitre 55 se termine sur une note très positive. Mais le livre n'est pas terminé. Il nous reste 11 chapitres à parcourir. 56 à 66. Maintenant, si c'était un cours au séminaire, je ne vous dirais pas ce que je vais vous dire maintenant. Je te ferai essayer de le découvrir toi-même. Mais comme vous n'avez rien payé, vous devez l'obtenir. Lorsque vous lisez ces chapitres 56 à 66, vous ressentez un étrange sentiment de déception après le chapitre 62. Les chapitres 63, 64, 65 et 66 sont plutôt sombres. Et on se demande ce qui se passe exactement. Cette idée ne m'est pas originale. Un autre étudiant d'Isaïe l'a proposé il y a plusieurs années. Et quand il l'a fait, tout d'un coup, j'ai dit, « Oh, bien sûr, c'est ce qui se passe. » Ce que vous avez dans ces chapitres est ce qu'on appelle techniquement le chiasme. Autrement dit, les parties ascendantes sont parallèles aux parties descendantes. Au sommet de cette section se trouve le chapitre 61, versets 1 à 3, les versets que Jésus a utilisés pour proclamer sa messianité à Nazareth. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. C'est le centre. Et j'ai utilisé la mauvaise lettre là-bas. De chaque côté, dans les chapitres 60, 61 et 2, nous avons une image de la lumière qui se lève en Sion de chaque côté. Au chapitre 59 et dans les premiers chapitres 63, vous avez le guerrier divin, le guerrier qui vient détruire les ennemis de son peuple. C'est en 59, 15b jusqu'à la fin du chapitre 59 et du chapitre 63, 1 à 6. De chaque côté de cela, donc c'est E, c'est D, c'est C, voici B, l'incapacité des gens à faire la justice. Donc, en termes techniques, c'est des premiers, c'est, excusez-moi, c'est des premiers, c'est ces premiers, c'est des premiers, et puis au tout début et à la toute fin, vous avez, et encore une fois, je vous donne ici les réponses aux premières questions, justes étrangers, étrangers. Voilà donc A et A premier. Ainsi, nous doublons le début et la fin et nous atteignons ce sommet ici du Messie oint. Étranger juste, incapacité du peuple à être juste, le guerrier divin, lumière naissante en Sion, le Messie, lumière naissante en Sion, le guerrier divin, incapacité à être juste et étranger juste. Maintenant, nous verrons cela se dérouler dans les quatre prochaines semaines, mais ce qui se passe, c'est que ce type d'appareil permet de souligner de quoi il s'agit tout en conservant cette compréhension du point culminant. Voyez ce qui se serait passé si le livre s'était simplement tenu 56, 57, 58, 59, 60 et s'était arrêté là. Oh, nous terminerions sur ce merveilleux point culminant de la révélation du Messie, mais nous ne comprendrions pas quel était le problème, que le Messie est venu pour permettre à son peuple de vivre une vie juste afin que le monde puisse être un. Nous gardons donc le point culminant, mais nous restons également concentrés sur le problème et l'objectif. Cela nous ramène alors directement à l'endroit où nous en étions au chapitre 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie comme la plus haute des montagnes, s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples viendront et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions marcher dans ses sentiers. C'est donc effectivement la dernière section du livre qui traite de cette question. Pourquoi le Messie est-il venu? Non, il est venu pour nous sortir des difficultés, nous, son peuple spécial, et nous rendre riches. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Ce n'est donc qu'un aperçu au début de cette section, veuillez garder cela à l'esprit pendant que nous travaillons. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la semaine prochaine, Mémorial Day, désolé, nous allons faire les chapitres 58 et 59. Nous allons terminer ce segment ici. Ensuite, la semaine prochaine, la première semaine de juin, nous allons faire les chapitres 63 à 66, qui, à bien des égards, répètent ces pensées. Nous allons y faire un tour. Ensuite, nous reviendrons et nous terminerons avec 60 à 62 le 10 juin, quoi qu'il en soit, le deuxième lundi de juin et nous terminerons notre étude. C'est pourquoi nous sautons un peu à cause de cette structure étrange. Bon, questions, commentaires, c'est assez clair? D'accord, n'hésitez pas à demander. Très bien, ce soir, alors 56H à 57H. On pense généralement que les chapitres 56 à 66 ont été adressés aux Judéens dans la période post-exilique. Ils semblent s'adresser à des gens qui croient qu'ils sont acceptés par Dieu simplement en raison de leur droit de naissance et qu'un comportement juste n'a pas vraiment d'importance, une conclusion qu'ils auraient pu tirer de leur délivrance de Babylone. Il n'était pas nécessaire qu'ils deviennent justes pour que Dieu les délivre. Il vient de les livrer. Alors, peu importe comment tu vis, hein. Mais il semble y en avoir d'autres qui étaient sincèrement préoccupés par le fait que leur retour à la terre n'avait entraîné aucun changement réel dans leur comportement. Isaïe semble parler pour eux à différents moments. Dieu encourage ces personnes à croire qu'il s'occupera de leurs problèmes et qu'il brillera à travers eux pour être une lumière pour les nations. Donc encore une fois, pas de détails historiques concrets tout comme 40 à 55 sauf pour Cyrus, vous n'avez pas de détails historiques concrets liés à l'exil. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'Ésaïe ne les connaissait pas. Par l'inspiration de l'Esprit, il était capable de parler de la situation future, mais il ne connaissait pas les détails de ce que serait leur vie. Et je pense que c'est la même chose ici. Aucun détail sur la période post-exilique, mais par inspiration, en comprenant quelle sera la situation là-bas, théologiquement et comportementalement, il faudra y remédier. Oui. Ne voyons-nous pas cette tendance même à l'époque contemporaine? Israël, ils sont revenus dans ce pays, mais ils le considèrent comme leur droit de naissance. C'est là que nous avons commencé, mais ils ne font pas le lien avec le message de Dieu à la majorité des nations laïques. Oui. Et ils utiliseront l'Holocauste comme justification. Est-ce que Dieu veut nous traiter ainsi? C'est très bien. Nous n'aurons rien à voir avec lui. Mais il est très fascinant qu'au moins pour un groupe de personnes qui ont souffert non pas de choses horribles, mais certainement de choses horribles de la part des Babyloniens, ils se sont retournés et ont dit, non, nous allons être différents. Cela n'est pas encore arrivé à l'Israël moderne. D'accord. Au chapitre 56, versets 1 à 8, deux groupes sont abordés ici dans ces versets. Verset 3, à qui parle-t-il? L'étranger. Et aussi le verset 3, un autre groupe. Les eunuques, les étrangers et les eunuques. Or, dans Deutéronome 23, versets 7 et 8, il est interdit à ces deux-là d'avoir quoi que ce soit à voir avec l'adoration de Dieu. Mais ici, que l'étranger qui s'est joint au Seigneur ne dise pas, le Seigneur me séparera certainement de son peuple. Que les eunuques ne disent pas, je suis un arbre sec. Car ainsi parle le Seigneur. Maintenant, quels sont les comportements dans lesquels ces étrangers et ces eunuques se livrent et que Dieu approuve? Observez le sabbat. Deuxièmement, choisissez ce qui est juste. Maintenir la justice. Garder l'alliance. En d'autres termes, un comportement objectif et juste. Maintenant, je vais en dire plus sur le sabbat la semaine prochaine, donc je ne m'appuierai pas là-dessus à ce stade, mais Dieu dit, je veux que votre comportement soit comme le mien. Si vous étiez ici lors de notre étude sur l'Exode, j'espère que vous vous souvenez que j'ai soutenu que le but de l'Alliance est d'enseigner le caractère de Dieu par l'action. Si vous respectez l'Alliance, vous reproduisez le comportement de Dieu. Vous agissez comme Dieu. Vous marchez sur son chemin. Vous suivez ses instructions. Alors, ces gens, eunuques, étrangers, qui respectent effectivement mon alliance, sont les bienvenus. Ils me plaisent. Eh bien, comment cela s'applique-t-il à nous? Je pense que c'est tout à fait vrai, et cela sera expliqué en détail dans la section suivante. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, nous sommes le peuple de Dieu. Je suis allé à l'autel. J'ai rejoint l'église. Je suis membre des élus, donc peu importe comment je vis ou non. Gardez mon alliance. Que signifie respecter l'alliance de Dieu pour vous, pour moi, aujourd'hui? Évidemment, on coupe les cheveux au coin de nos tempes, on fait confiance et on obéit. Quoi d'autre? Que signifie être respectueux de l'alliance aujourd'hui? D'accord. Respecter Dieu et les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Paul l'a dit. Toute la loi peut se résumer en un seul mot, amour. Maintenant, à ce stade, vous savez tout ce que je sais, mais laissez-moi vous le rappeler. D'accord. Tu as appris quelque chose, Fred. L'amour, l'affection, les sentiments et les sentiments sont l'un des pôles de notre relation avec Dieu. Quel est l'autre pôle? L'obéissance, oui. Il y a cependant un mot couramment utilisé. C'est en fait une phrase mécanique. Je vais faire ce que Dieu veut. Je ne vais pas déplaire à Dieu. Je ne vais pas lui désobéir, mais sans la crainte du Seigneur, l'amour peut très facilement sombrer dans le sentimentalisme. Oh, je me sens si chaleureux et confus à propos de Dieu, et je vis comme un enfer parce que Dieu dira toujours, je pardonne. Donc ces deux-là vont de pair. Ce n'est pas de cela que Jean parle lorsqu'il dit que l'amour parfait bannit la peur. Ce dont il parle, c'est de la peur de la condamnation. La crainte du Seigneur dit que je ne veux pas déplaire au Seigneur. La peur de la condamnation me dit que je ne veux pas aller en enfer. La relation avec le Seigneur n'entre pas en ligne de compte. Vous essayez simplement de faire le minimum pour éviter d'être puni. Crainte du Seigneur, vous faites le maximum pour lui plaire. Donc, pour nous, vivre dans l'alliance signifie que si j'aime le Seigneur, alors je ne prends pas son nom en vain. Si j'aime le Seigneur, encore une fois, j'en parlerai davantage la prochaine fois, je ne travaille pas le dimanche. Si j'aime le Seigneur, je ne prends pas vos affaires. Si j'aime le Seigneur, je garde la foi envers ma femme. Si j'aime le Seigneur, vous voyez où je vais. Ainsi, la crainte du Seigneur donne le contenu, l'amour du Seigneur donne la motivation et la joie. Nous vivons donc dans l'alliance. Nous vivons dans cette relation avec Dieu et choisissons ce qui lui plaît. Je pense que c'est une phrase tellement intéressante. Bon, continuons. Non, je dois y retourner et en parler une minute. Si en fait Dieu avait finalement l'intention d'inclure les étrangers et les eunuques dans son culte, pourquoi les a-t-il exclus au début? Je veux dire, Harry Emerson Fosdick pourrait dire, eh bien, le Deutéronome avait tort et Isaïe a maintenant corrigé le Deutéronome à cause de la révélation progressive. Eh bien, je n'y crois pas une seule minute. Le Deutéronome a raison et Isaïe a raison, mais pourquoi était-il en désaccord? Je pense que cela pourrait en faire partie. Oui. 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 Culte païen. Rien d'autre? D'autres idées? Il voulait mettre son peuple de côté pour qu'il apprenne qu'il était la lignée par laquelle le Messie viendrait. Oui. Oui. Je pense que la seule autre chose que j'ajouterais à tout cela serait ceci, lorsqu'on aborde les bases de l'éducation, on ne nuance pas les choses. Vous les peignez dans les couleurs les plus vives possibles pour faire valoir le point. Alors, eunuque, j'ai créé vos corps que vous ne pouvez pas manipuler vous-même. Excusez-moi, ne manipulez pas. Vous ne pouvez pas faire des choses à votre corps pour vous priver d'une manière ou d'une autre et vous rendre plus acceptable à mes yeux. Mais le Deutéronome parle aussi d'excellence. Oui, mais encore une fois, il s'agit d'essayer de faire valoir que Dieu nous a créés entiers et que nous l'adorons en tant que peuple à part entière. Donc, vous essayez de faire valoir ce point. Maintenant, il parle de plénitude spirituelle, mais il utilise le point physique pour faire valoir ce point. Vous voyez cela encore et encore dans l'Ancien Testament. Comment est-on béni dans l'Ancien Testament? Vous devenez riche, vous avez beaucoup de terres, vous avez beaucoup d'enfants et vous devenez vieux. C'est une bénédiction. En fait, ce n'est pas le cas. La bénédiction est une question de cœur. Et à moins que Dieu ne vous ait béni de l'intérieur, il n'y a pas assez de choses dans le monde pour vous satisfaire. Mais il ne va pas parler de bénédiction spirituelle avec ses enfants. Il utilise des exemples concrets pour faire valoir son point de vue. Et je suis convaincu que c'est ce qui se passe ici aussi. Bon, maintenant passons à autre chose. Que nous disent les versets 7 et 8 sur le but ultime des Judéens et de leur temple? Un temple pour toutes les nations. Comment s'appelle la maison? Une maison de prière. Je pense que c'est assez important. Cela m'a toujours semblé assez étonnant que, lors de la dédicace du temple par Salomon, ils disent que maintenant il vient de sacrifier quelque chose comme 100 000 taureaux ou quelque chose comme ça, un nombre incroyable, mais sa prière ne dit rien sur le temple en tant que lieu de sacrifice. C'est entièrement comme un lieu de prière. Je pense que c'est important. Oh oui, j'irai dans ce temple et je ferai ces rituels et je manipulerai Dieu et je garderai mon cœur pour moi. Non, non, tu ne le feras pas. C'est un lieu de relation et la relation s'exprime à travers la communication. C'est une maison de... Oui. Jamais. Non. Eh bien, il s'est produit cette semaine qu'au mur des Lamentations, ils autorisent enfin les femmes à se rendre dans une section spéciale du mur des Lamentations, ce qui est une évolution étonnante, contre laquelle les orthodoxes combattent bec et ongles et tout le reste. C'est ce nouveau poème. Ouais. Le temple d'Hérode. C'est le bâtiment du temple. C'est la cour des prêtres. C'est là que se trouvait l'autel et c'est le parvis des hommes. Ceci est le tribunal des femmes et ceci est le tribunal des païens. Et nous avons ici une des pierres d'avertissement qui dit que tout gentil qui franchit cette ligne est responsable de sa propre mort. Alors, tu n'y vas pas. Voilà donc la situation. Les niveaux de distinction. D'accord. Oui, oui, des hommes et des femmes auraient pu être ensemble ici en tant que gentils. Ils sont tous impurs. Cela ne fait donc aucune différence. Les femmes hébraïques sont moins impures que les hommes païens, etc. Mais maintenant, regardons le chapitre 66, la conclusion, la section A', les versets 18 et suivants. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Leur temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, et ils viendront voir ma gloire. Vous vous souvenez d'Ésaïe 6? La terre entière est pleine de sa gloire. Le jour viendra où les gentils viendront le voir. Je mettrai un signe parmi eux. 2. J'enverrai des survivants vers les nations, à Tarsi, Paul, Lude, qui tirent l'arc, à Tubal et Javan, vers les îles lointaines, qui n'ont pas entendu ma renommée ni vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Et eux, les nations, amèneront tous vos frères de toutes les nations en offrande au Seigneur et ainsi de suite. Et certains d'entre eux, dans le contexte, ce sont les nations, les gentils. Je prendrai aussi 4 prêtres et 4 lévites. Ouah ! Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais demeureront devant moi, dit le Seigneur, ainsi votre postérité et votre nom demeureront de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat. Toute chair viendra adorer devant moi, déclare l'Éternel. Début 56, 1 à 8, fin 66, 18 à 23. Quel est le but de tout cela? Afin que toutes les nations puissent venir voir la gloire du Seigneur. D'accord. Maintenant, après avoir dit tout cela, je veux revenir au 56, verset 1. Et je veux que vous regardiez le raisonnement dans ce verset. N'oubliez pas que les signaux ont une cause. Gardez la justice et pratiquez la justice, car bientôt mon salut viendra et ma délivrance sera révélée. Maintenant, quel est le lien logique dans cette phrase? Le salut arrive et quelle devrait être notre réponse à ce salut gratuit? Justice et droiture. Oui. Oui. Au lieu de discuter, puisque je suis sauvé par la grâce, la façon dont je vis n'a pas d'importance. En fait, c'est tout le contraire. Puisque je suis sauvé par grâce, je vivrai sa vie dans la justice et la droiture. Et encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit tant de fois. Le problème avec le mot justice est qu'il n'est pas assez large pour l'idée hébraïque. L'idée hébraïque inclut la justice légale et l'équité. Cela inclut cela, mais c'est plus grand que cela. C'est l'ordre divin de Dieu pour la vie. Dans l'ordre divin de Dieu pour la vie, vous ne pouvez pas opprimer les pauvres. Dans l'ordre divin de Dieu pour la vie, vous ne pouvez pas priver les innocents de leur droit à la justice. Mais cela va au-delà de la simple justice juridique, comme nous avons tendance à penser à ce mot en anglais. Donc, vivre la vie de Dieu parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est le point sur lequel Paul insiste dans toutes ses lettres. Dieu merci, vous avez été délivrés de cette vieille tentative de vous justifier en étant assez bon pour Dieu en observant la loi. Dieu merci, vous en avez été délivrés. Vous êtes sauvés par grâce. Alors, bien sûr, vous allez abandonner votre ancienne vie pécheresse, n'est-ce pas? Je suis étonné de voir combien de personnes se lanceront dans une théologie complexe du salut et passeront à côté de l'essentiel du point soulevé par Paul dans pratiquement chacune de ses lettres. Vous êtes sauvés par grâce. Maintenant, arrête de vivre de cette façon. Vous êtes mort de cette façon. Maintenant, mourez y. Vous enlevez ces vieux vêtements. Maintenant, enlevez-les. Vous mettez ces nouveaux vêtements. Maintenant, mettez-les. Une vie de justice et de droiture est la conclusion logique du salut par la grâce. Très bien, dépêchons-nous. Chapitre 56 versets 9 à 12. À qui parle-t-il ici? Ces gardiens aveugles, ces chiens silencieux, ces chiens à gros appétit, ces bergers stupides. De qui parle-t-il? Les dirigeants du peuple, n'est-ce pas? Les chefs religieux, les prophètes, les prêtres. À ce stade, vous n'avez pas de roi, mais vous avez un gouverneur. Oui, dans un sens réel, il dit que peu de choses ont changé. Il a eu des paroles dures pour ses prophètes, prêtres et dirigeants civils dans le passé, et il a des paroles dures pour eux maintenant. Ils vivent pour eux-mêmes et j'éviterai tout autre commentaire politique. Regardez maintenant 57, 1 et 2. Que se passe-t-il ici? Je n'ai pas entendu ça. Ce qui se passe. Ce qui se passe. Eh bien, non, non, qu'est-ce qui se passe? Les justes périssent. De bonnes personnes meurent, en partie à cause de ces faux dirigeants, oui. Maintenant, que faut-il en conclure? Pourquoi le juste meurt-il? Être épargné du mal, éloigné de la calamité. Maintenant, à quelle fréquence vous et moi pensons-nous cela lorsque des gens justes meurent? La plupart du temps, nous accusons Dieu d'être injuste. Voici cette bonne personne. Je me souviens de la mort de mon bon ami Évretinte, à 63 ans si je me souviens bien, jeune homme, simple enfant, et je me suis dit à l'époque, mon Dieu, si tu avais besoin d'emmener quelqu'un, j'ai une liste restreinte. Mais ensuite je me souviens de ça. Oh, bien sûr, mais encore une fois, et je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais un adorable enfant chrétien meurt à 16 ans, et nous disons, oh non, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Le monde. Cela aurait pu arriver à ce garçon. Qui sait ce que l'avenir aurait pu lui réserver? Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Encore une fois, dit-il, vous pensez que Dieu est injuste parce que ces bonnes personnes sont en train de mourir. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est gentil avec eux à cause de ce qui vous attend, les amis. Waouh, waouh. D'accord, je continue. Maintenant, ces gens, ces juifs de retour, disent clairement que nous sommes les enfants d'Abraham. Donc délivrés, non pas parce que nous étions justes, ni parce que nous avions fait quelque chose de particulier, mais simplement parce que nous étions dans le bon groupe. Que dit Dieu à propos de leur héritage selon le verset 3? Vous êtes les fils d'une femme adultère. En parlant de Sion, je pense. Vous vous souvenez d'Osée. Osée épouse la prostituée, et ils ont des enfants, mais ce ne sont pas les enfants d'Osée. Cette image de Sion comme la femme qui s'est prostituée auprès de tous les autres amants sous le soleil, et Dieu dit que c'est de là que vous descendez. Vous êtes si fiers de votre droit de naissance, mais en fait, votre droit de naissance pue. Ainsi, dans les versets suivants, il décrit les versets 3 à 13. Il décrit leur pratique religieuse comme une idolâtrie fondamentalement païenne. Encore une fois, ce langage est assez familier dans les parties précédentes du livre, également dans Ézéchiel. Maintenant, l'une des questions qui se pose, et je la soulève en arrière-plan, c'est que la plupart des érudits pensent que les Juifs ont en quelque sorte été guéris de leur idolâtrie, en grande partie, pendant l'exil, et qu'à leur retour, ils étaient plus enclins à être opposés au culte des idoles. La question est donc la suivante, pourquoi Isaïe introduit-il cela ici? Très bien, ils le font toujours dans leur cœur. Nous avons déjà parlé du paganisme de diverses manières, et encore une fois, j'hésite à vous poser trop de questions de quiz, car cela me donnerait une mauvaise image en tant qu'enseignant, mais qu'est-ce qu'une idée païenne envers Dieu? Comment le paganisme, le culte païen, pense-t-il à Dieu? Excellent, excellent. Peut-être que je resterai dans le métier d'enseignant. Je fais des choses religieuses afin de manipuler Dieu pour subvenir à mes besoins. C'est du paganisme, et c'est pourquoi je demande ici, supposons qu'Isaïe dise que leurs pratiques religieuses orthodoxes sont vraiment de nature païenne, comme s'ils faisaient réellement ces choses. Alors laissez-moi vous demander, à quoi ressemble le paganisme dans le protestantisme évangélique nord-américain? Donnez votre dîme pour que Dieu vous rende plus de bénédictions. C'est un. Dieu répondra à chaque prière parce que je prie pour elle. Non, c'est biblique. Et le jeûne? Si je vais suffisamment à l'église et que je condamne chaque pécheur, oui. Oui. De toutes ces manières, j'ai besoin de trouver un travail, alors mon Dieu, je vais faire des dévotions tous les jours pendant le mois prochain. Non, je n'ai pas dit ça. Il a un mois pour produire. Ouais, le paganisme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est mécanique. Faites-le correctement et cela fonctionnera à chaque fois. Si cela n'a pas fonctionné, vous ne l'avez pas fait correctement. Faire fonctionner un tapis roulant, ne produire rien, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'une attitude non païenne envers Dieu? Il est digne de nos prières. Faites confiance. Obéissance. Pourquoi devrais-je donner la dîme? Parce que c'est dit, oui, c'est plutôt bien. Et par amour? J'allais dire, je pense que si vous avez l'amour de Dieu, alors vous faites les choses à partir de cet amour. Oui. L'enfant qui est amoureux de la fille ne dit pas, je me demande si peut-être on peut s'en sortir avec McDonald's. Non, vous allez faire des folies, aller dans un endroit haut de gamme comme Checkers, mais non, c'est encore une fois, si vous aimez, vous ne demandez pas, combien puis-je donner et m'en sortir? Vous demandez, oh, combien puis-je montrer? Combien je t'aime. Toute la différence du monde. Deux personnes faisant la même chose ne font pas nécessairement la même chose. Celui-ci prie, celui-là prie. Celui-là prie pour l'amour, celui-là prie pour l'obtenir. Ils ne font pas la même chose. C'est là que se trouve ton cœur. Oui, exactement. C'est là que se trouve ton cœur. John, j'étais en train de prier quand Fred était en Asie du Sud-Est, et au milieu de cela, Dieu a dit, change ta prière, tu supplies de prier pour Jésus. Oui. Oui. Jésus a dit, quand je prie, je veux rendre gloire à mon Père. Ouais. D'accord. Oui. Chapitre 57, versets 14 à 21. Il sera dit, bâtissez, préparez le chemin, ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Maintenant, cela ressemble un peu au chapitre 40, mais dans le chapitre 40, qui vient? C'est le Seigneur. Préparez une super autoroute pour que le Seigneur puisse venir à nous. Oui. nous ne pouvons pas aller vers lui. Il est impossible que nous, dans notre état de péché, puissions faire tout ce que nous devons faire pour obtenir sa grâce. Nous ne pouvons pas. Il doit venir vers nous. Mais ensuite, nous devons aller vers lui. Alors, que dit Dieu? Verset 15. Comment pouvons-nous parvenir à Dieu? Le cœur contrit et l'humilité. Oui. Un des plus beaux vers du livre. Ainsi parle celui qui est élevé et élevé, qui habite l'éternité, dont le nom est saint. Ô mon. J'habite dans les lieux élevés et saints, et aussi avec celui qui est d'un esprit contrit et humble, pour raviver l'esprit des humbles, pour raviver le cœur des contrits. N'est-ce pas beau? Ô mon. Il vit dans une lumière inimaginable. Il est au-delà de tout ce que notre imagination peut concevoir et ce, dans le cœur le plus humble. Oui. Donc, si je suis fier de ma justice, Dieu ne vivra pas ici. Eh bien sûr, cela signifie que je suis plus impie que toi. Nous allons rivaliser en étant plus impies les uns que les autres. Ce n'est pas le propos. Le fait est qu'aucune bonne chose n'habite en nous, mais si le Saint-Esprit habite en nous, dans notre contrition, il peut produire des fruits merveilleux. Maintenant, je vous demande, quel est le rapport avec le thème que nous avons vu tout au long du livre? Que se passe-t-il lorsque nous nous exaltons? Nous tombons. Et lorsque nous admettons que nous sommes impuissants et totalement dépendants de Dieu, que se passe-t-il? Il nous élève. Exaltez-vous, soyez humiliés. Ne vous humiliez pas, mais ayez une bonne conception de vous-même et permettez-lui de vous élever pour vous asseoir sur le trône à côté de lui. Je ne lutterai pas éternellement. Je ne serai pas toujours en colère. L'esprit s'évanouirait en moi. Le souffle de vie que j'ai créé. Encore une fois, la compassion de Dieu, l'implication de Dieu avec nous. Lui, comme le dit le verset que je l'ai mémorisé il y a des années, il a pitié de ses enfants. Il a de la compassion pour ses enfants. Il sait que notre cadre est faible. Il sait que nous sommes poussière. Il sait tout cela. D'accord. Alors, que dit ces versets 16, 17, 18 sur le dessein ultime de Dieu pour nous? Avoir une relation avec lui. S'il se met en colère, ce n'est que pour un instant, son but ultime. Et donc je vous demande ma ligne, le dernier mot voulu par Dieu n'est jamais la destruction. J'espère que vous vous en souvenez. Le dernier mot voulu par Dieu n'est jamais la destruction. C'est peut-être son dernier mot, mais cela dépend de nous. Son dernier mot est la guérison et la restauration. Et s'il me parle de destruction, ce n'est pas parce qu'il veut me détruire. C'est parce qu'il veut que je reprenne mes esprits et que je sois guéri. Si je ne reviens pas à la raison, alors je ne peux pas être guéri. Mais son but. Ainsi, dit-il au verset 18, j'ai vu ses voies, mais je le guérirai. Je le conduirai et lui redonnerai du réconfort, ainsi qu'à ces personnes en deuil, en créant le fruit des lèvres. N'est-ce pas intéressant? Qu'est-ce que cela signifie? Je le conduirai et lui redonnerai du réconfort, ainsi qu'à ces personnes en deuil, en créant le fruit des lèvres. Qu'est-ce que c'est? Louange. Oui. Et c'est encore une fois ce que nous avons vu tout au long du livre, ô mon Dieu, je mérite le dos de sa main. Et il m'a donné le devant de la main. Il m'a pris par la main. Il m'a sorti de l'argile bourbeuse de la langue King James, créant le fruit des lèvres. Très intéressant. Vous ne ressentez pas seulement des éloges, vous devez les exprimer. C'est pourquoi les réunions de témoignage sont de bons moments. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Exactement vrai. Et tant que nous restons dans notre fierté, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je suis l'une des meilleures personnes que je connaisse. Dieu ne peut pas nous atteindre, mais c'est lorsque nous éliminons les obstacles que constituent notre orgueil et notre autosuffisance et admettons notre besoin que nous pouvons alors venir à lui. Il doit venir vers nous, mais il y a un point d'arrêt. Et à ce moment-là, nous devons dire, oui, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver sans toi. Je dépends de toi. Et à ce moment-là, le Très-Haut et le Saint s'installent dans cette humble maison. Le christianisme est la seule religion dans laquelle Dieu vient à nous en premier. Oui. Et puis nous devons venir, mais ce doivent être les autres religions qui disent que vous allez vers leur Dieu. C'est exact. C'est tout à fait vrai. S'il existe une théologie distinctive du christianisme, c'est bien la grâce. Pourquoi les Mormons mènent-ils une vie si honnête? Parce qu'il n'y a pas de grâce dans le mormonisme. Pourquoi les meilleurs musulmans mènent-ils une vie si honnête? Et ils le font. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de grâce. Tu dois faire ça si tu veux aller au paradis. Et c'est ce qui a été la malédiction du christianisme tout au long de son histoire. Oh, puisque je suis sauvé par grâce, je peux vivre comme l'enfer. Et le monde nous regarde et dit, oui, si c'est ça la religion, je ne pense pas que j'aurai rien de tout ça aujourd'hui. Ainsi, notre plus grande bénédiction peut aussi être notre plus grande malédiction. D'accord. Maintenant, il dit, au verset 19, 20 et 21, qu'il existe une doctrine connue sous le nom d'universalisme, qui dit que tous les hommes finiront par être sauvés. Que disent ces versets à ce sujet? Oui. Si vous persistez dans la méchanceté, vous ne serez pas sauvés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je m'arrêterai là-dessus. On dit souvent, eh bien, je veux dire, si une personne se tient devant Dieu et voit les alternatives entre le paradis et l'enfer, si elle voit enfin que Dieu est réel, eh bien sûr, elle acceptera Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une dispute avec quelqu'un qui est absolument convaincu de son point de vue. Peu m'importe le nombre d'arguments accablants que vous présentez. Ce ne sera pas suffisant car, en fin de compte, il ne s'agit pas d'argumentation. Il ne s'agit pas de vérité. Il s'agit de ma façon de faire. Et donc, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais les statistiques sur les conversions sur les lits de mort sont absolument catastrophiques. C'est quelque chose comme 1%. Si vous vivez pour vous-même toute votre vie et que vous êtes maintenant invité à vous abandonner pour être sauvé, ce prix est bien trop élevé. Bien trop haut. Ainsi, le livre de l'Apocalypse ne dit pas que les rois de la terre se repentiront et imploreront pardon. Le livre de l'Apocalypse dit que les rois de la terre crieront aux rochers de se jeter sur eux et de les cacher aux yeux du Dieu vivant. Ces 40, 50, 60, 70, 80 ans sont donc très importants. L'éternité est en jeu, paix, shalom, shalom au loin et au proche, dit le Seigneur, et je le guérirai. Ce n'est pas la paix, la paix pour ceux qui vont se guérir. Paix à ceux qui n'ont pas besoin de guérison. Paix à ceux qui ont besoin de guérison et qui la connaissent et la reçoivent et je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Cela ne peut pas être silencieux. Ces eaux rejettent de la boue et de la saleté. Il n'y a pas de shalom, dit mon Dieu, pour les méchants. Un dernier mot, les méchants. Ce mot signifie essentiellement impie. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, oui, si c'est ainsi que vous vivez, alors Dieu ne peut pas vous donner son shalom, n'est-ce pas? Vous devez admettre que Dieu existe et que je ne suis pas lui. Et jusqu'à ce que vous arriviez à ce point, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour vous. Ainsi, nous avons examiné jusqu'à présent l'intention de Dieu que tous les gens viennent dans sa maison de prière. Nous avons commencé à examiner la partie B, l'incapacité du peuple de Dieu à être juste. Dieu dit que j'apprécie ses eunuques justes et ses étrangers, mais mon peuple ne mène pas une vie juste. Nous allons voir cela à l'appel la semaine prochaine. Cela devient vraiment très intense dans les chapitres 58 et 59. Mais à la fin de 59, nous voyons la révélation du guerrier divin. Prions. Père, merci. Merci d'être venu. Et merci d'être venu, vous nous tendez maintenant vos mains percées d'ongles et dites, maintenant les enfants, venez à moi. Vous tous qui travaillez sous de lourdes charges et je vous donnerai du repos. Shalom. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi. C'est si facile de faire de toi une idole. Il est si facile de vous utiliser comme un outil pour atteindre nos objectifs plutôt que d'être votre enfant afin que vous puissiez accomplir vos bons objectifs à travers nous. Aide-nous, Seigneur. Aidez-nous. Merci d'avoir trouvé un moyen de venir du haut et du lieu saint pour vivre dans nos cœurs. Te louerai. Te louerai. Te louerai. Amen. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 27, Isaïe chapitre 56 et 57.